Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur est donc remonté au ciel. Et l'Évangile nous dit qu'il s'est assis à la droite du Père, et qui est bien sûr là une preuve de sa divinité. Si notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, c'est qu'il est Dieu. La deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'assoit à la droite de la première personne de la Sainte Trinité. Et il nous faut évidemment réfléchir un peu à cette conséquence de cette divinité. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu au ciel? Il est donc notre roi, il est notre maître. Nous devons le recevoir, nous devons le reconnaître, nous devons le concevoir comme la cause de toutes choses. L'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il a plein pouvoir sur nous par son essence, par sa puissance et par sa présence. Par sa présence parce qu'il est partout, par sa puissance parce qu'il peut tout, et par son essence parce qu'il est cause de tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ est cause ainsi cause finale de tout ce que nous faisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons constamment avoir nos yeux fixés vers lui. C'est pour ça qu'il est monté au ciel, pour nous indiquer le chemin que nous allons prendre un jour avec sa grâce. Et donc la fin de notre vie, c'est de posséder notre Seigneur. La fin de notre vie, c'est d'être un jour avec lui pour participer directement à sa divinité au ciel. Il est aussi bien sûr cause efficiente de tout ce que nous faisons. Et qui est à la base de tout ce que nous faisons. Non seulement c'est lui de lui que nous venons, mais c'est à lui que nous devons revenir une fois mort, par notre âme, si notre âme est en état de grâce. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, et Dieu veut évidemment récupérer en quelque sorte sa créature au ciel après notre mort. Il est aussi cause exemplaire de tout ce que nous faisons. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, en son humanité et en sa divinité, représente justement l'exemple que nous devons suivre afin de pouvoir un jour le posséder au ciel. Donc posez-nous cette question toute simple pendant cette octave de l'Ascension pour nous préparer aussi à la fête de la Pentecôte. Est-ce que dans mes actions, dans ma façon de me comporter, dans mes paroles, dans tout ce que je fais, est-ce que je montre aux gens qui sont autour de moi que je suis un fils de Dieu par adoption? Est-ce que je montre aux gens qui sont enfants autour de moi que je suis un enfant du bon Dieu par le baptême? Est-ce que les gens qui me voient agir peuvent voir le bon Dieu derrière tout ce que je fais? Ou est-ce que, au contraire, les gens qui me voient agir peuvent voir le démon derrière tout ce que je fais? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il nous faut justement être rempli du bon Dieu pour pouvoir faire ce que le bon Dieu demande que nous fassions. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres, juste avant l'ascension? Allez, dit-il, allez par le monde entier prêcher l'évangile. À toutes les créatures, et vous serez mes témoins. Voilà ce qu'il demande. Et le bon Dieu ne demande pas simplement à ce que ses apôtres soient ses témoins. Le bon Dieu demande aussi à ce que nous aussi, nous soyons ses témoins. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un mot synonyme du témoin, c'est le mot vicaire. De même que le pape est le vicaire du Christ, de la même façon, nous devons nous aussi représenter le Christ, le Père, le pape, c'est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. De la même façon, un catholique, qui bien sûr n'est pas pape, un catholique doit représenter notre Seigneur Jésus-Christ par tout ce qu'il fait, encore une fois, pour que les gens qui le voient agir puissent voir derrière lui, comme sur un miroir, le bon Dieu qui se reflète sur l'âme de cette personne à qui il parle et qu'il voit, qu'il considère dans ses actions. Alors posons-nous cette question toute simple, est-ce que je suis vraiment témoin de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors je vous propose deux points pour vous aider justement, nous aider, c'est voilà pour moi également, nous aider justement à ce que nous soyons réellement les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons le temps de l'été, le temps des chaleurs, et il me semble que c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Il nous faut être témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, justement par la façon de nous habiller. Alors, ces chaleurs estivales qui arrivent maintenant, tout le monde se déshabille complètement, l'humidité devient le lot commun pratiquement partout. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment pouvons-nous justement porter fièrement le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié? Eh bien, nous porterons le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, en étant habillés comme des enfants du bon Dieu, comme des enfants catholiques. Ce n'est pas simplement pour les femmes, aussi pour les hommes. Certes, les femmes doivent faire très attention justement de refuser catégoriquement d'être considérées comme des objets pour les hommes, et donc elles doivent être fières de leur féminité, et même quand il fait très chaud, agir avec cette féminité justement. C'est pour cela qu'une femme doit être fière de porter sa robe, et surtout quand autour d'elle, je dirais, toutes les femmes sont en pantalon, qu'elles réagissent précisément en étant habillées comme une femme catholique. C'est leur façon de porter le drapeau catholique. De la même façon que nous, prêtres, eh bien, dans le monde qui nous entoure, qui est complètement éloigné du bon Dieu, la soutane que nous portons, même quand il fait très chaud, et la soutane que nous portons, eh bien, est la manifestation du fait que nous sommes ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, vous n'êtes pas ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous êtes enfant du bon Dieu. Donc les enfants du bon Dieu doivent faire attention. C'est pareil pour les hommes, d'ailleurs. Les hommes aussi, dans leur tenue pendant les chaleurs estivales, doivent également faire très attention de justement agir comme catholiques pour précisément rappeler qu'ils sont ministres, qu'ils sont enfants de Dieu, enfants du bon Dieu. Ça me semble extrêmement important aujourd'hui. C'est certainement un des points les plus importants pour lutter contre l'esprit de la Révolution. La meilleure façon pour lutter, par exemple, contre cette ineptie de la théorie du genre, c'est quoi ? C'est que précisément les femmes agissent comme des femmes et que les hommes agissent comme des hommes. Que les femmes protègent leur féminité et que les hommes protègent leur masculinité. Qu'une femme soit fière d'être une femme et que l'homme soit fier d'être un homme. Le monde moderne va pousser les femmes à avoir honte de leur féminité. Eh bien, la meilleure façon de répondre, c'est justement de porter fermement, soigneusement, cette féminité, je dirais, sur vous, dans la façon de vous habiller, pour précisément expliquer aux gens qui vous regardent, qui vous voient, je ne suis pas un instrument parce que je suis fille de Dieu. Et cela, tout un travail apostolique peut être fait. Quand notre Seigneur Jésus-Christ envoie tous les disciples et les apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit « Allez prêcher, baptiser ». Allez pour justement enseigner ce que je vous ai enseigné, pour donner ce que je vous ai donné. Le deuxième point sur lequel peut-être vous pourriez aussi faire un apostolat qui me semble extrêmement important pour participer à cet apostolat missionnaire, n'oubliez pas que le signe de la vie d'une église, c'est son caractère missionnaire. Lorsque une église perd son caractère missionnaire, perd le désir de transmettre à d'autres personnes la vérité qui est en eux, à ce moment-là, c'est le signe que cette église est moribonde, est en train de mourir, ou est morte déjà. Alors, il faut justement avoir cet esprit missionnaire pour justement obtenir que d'autres personnes autour de nous puissent elles aussi recevoir les mêmes grâces que j'ai reçues. Beaucoup d'entre vous sont des convertis, par exemple. Beaucoup d'entre vous sont des gens qui ont reçu la grâce de la conversion. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai reçu la grâce de la conversion, Deo gratias, merci mon Dieu, ça ne suffit pas. La meilleure façon de remercier le bon Dieu de la grâce de la conversion, c'est de faire quoi ? La meilleure façon de remercier le bon Dieu de la grâce de la conversion, c'est justement d'essayer par tous les moyens que d'autres personnes puissent recevoir cette même grâce. Et donc d'amener d'autres personnes de nouveau ici, ou dans une chapelle de la tradition non unakum, pour que justement d'autres personnes puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ et élever leurs yeux, de quitter ce monde, si vous voulez, complètement corrompu d'ici-bas, pour au contraire regarder vers le ciel, là où bon Dieu nous attend. Un apostolat magnifique, par exemple, et c'est un apostolat capital, c'est l'apostolat des retraites. Regardez, avec la grâce du bon Dieu, le nombre de personnes qui ont retrouvé la foi ici, pour celles qui l'avaient et qui l'avaient perdue, ou tout simplement qui l'ont trouvée pour celles qui ne l'avaient jamais. Et comment sont-ils venus ici ? Comment ont-ils pu venir suivre ici une retraite ? C'est tout simplement parce que quelqu'un, un jour, leur a parlé de la retraite. Si quelqu'un un jour a eu suffisamment de respect humain dans le bon sens, vous voulez, pour lui parler de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amener faire la retraite. Vous avez les feuilles jaunes au fond de la chapelle, elles ne sont pas là pour prendre la poussière à l'étoile d'araignée. Utilisez-les. D'abord pour vous, pour ceux et celles qui ne sont pas encore revenus ou venus tout simplement aux Exercices Saint-Ignace. Les Exercices Saint-Ignace ont justement cette force divine, parce qu'ils viennent d'être la Sainte Vierge Marie, n'oublions pas, cette force extraordinaire pour convertir les gens. Il n'y a pas de moyen plus fort qu'on puisse trouver dans l'Église pour une conversion réelle et profonde que les exercices de Saint Ignace. Donc, utilisez ces feuilles d'abord pour vous prendre vous-même par la peau du cou, littéralement, vous amener une retraite si vous n'avez pas fait depuis longtemps, si vous n'avez jamais fait, et ensuite pour justement aider d'autres personnes à recevoir les mêmes grâces. Cet apostolat des exercices Saint-Ignace, c'est un apostolat fondamental. Il y a des tas de gens, par exemple, peut-être autour de vous, qui vivent dans le village voisin, autour de vous, que vous rencontrez régulièrement, et le bon Dieu attend pour leur donner la grâce de la conversion, que cette grâce passe par vous, parce qu'il a décidé que cette grâce était une grâce conditionnelle. Je vais convertir cette personne, mais cette grâce de conversion doit passer par une autre personne qui a déjà suivi la retraite, qui a accompli certaines choses et qui va être l'instrument de la grâce que je vais donner à telle personne, peut dire le bon Dieu. Beaucoup des grâces du bon Dieu sont conditionnelles. Le bon Dieu se sert d'instrument, c'est pour ça qu'il envoie ses apôtres. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Il ne va pas dire aux apôtres, asseyez-vous tranquillement, attendez le monde, je vous envoie plein de monde. C'est pas ce qu'il a dit. Allez prêcher, baptiser. Et ils sont partis dans le monde entier. Et tous y ont laissé la peau et les os. Sauf Saint-Jean, qui n'est pas mort martyr. Mais tous les autres sont morts martyrs. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Le bon Dieu nous demande aussi de partir à la conquête des âmes et donc d'essayer par tous les moyens d'amener justement d'autres âmes, justement pour que le bon Dieu puisse leur donner les mêmes grâces que vous avez reçues. Ne soyez pas égoïstes des grâces que vous avez reçues. Si vous avez reçu ces grâces de conversion, priez pour que cette grâce de conversion puisse passer à d'autres personnes. Nous sommes aujourd'hui en 2017, en France notamment, à peu près dans la même situation dans laquelle les apôtres étaient il y a 2000 ans. Nous sommes dans un pays de païens. Nous sommes un pays qui est de nouveau un pays de mission. La France, vient de l'Église, bien sûr, est toujours là, mais elle est un peu moribonde. Elle est un peu moribonde, justement en grande partie parce que les catholiques ne font plus leur travail. Alors demandons au bon Dieu cette grâce de justement comprendre l'importance de la vérité que nous avons reçue, et qu'un des pires crimes que nous puissions commettre, c'est justement de garder cette vérité pour nous et de ne pas chercher à la transmettre. C'est pour cela que le bon Dieu a envoyé les disciples, il les envoie en mission. La mission, c'est ça, la mission, c'est transmettre à d'autres personnes les grâces que j'ai reçues. Et il leur dit bien, celui qui croira sera baptisé, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a qu'un seul moyen de salut, ce seul moyen de salut, c'est l'Église catholique. Qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Voilà ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une phrase très importante qu'il faut souvent citer autour de nous, aux gens qui disent le bon Dieu, il n'a jamais parlé de toutes ces choses-là. Attendez, il a envoyé les disciples, il leur a dit, vous direz à ceux qui vous écoutent, si vous croyez, si vous êtes baptisés, vous serez sauvés, si vous refusez de croire, vous serez condamnés. Le bon Dieu est plein de charité, il ne travaille qu'avec la charité. Bien sûr que la charité est là. Mais la première des charités, c'est quoi? La première des charités, c'est la vérité. La première des charités, c'est de rappeler aux gens qui sont enfants de Dieu, qui ne sont pas encore enfants de Dieu par le baptême, qu'ils ont été créés par le bon Dieu, et que le bon Dieu, évidemment, a des droits sur eux parce qu'il les a créés. Et puisqu'il est mort sur la croix pour eux, et bien le bon Dieu a le droit d'exiger justement que ces personnes suivent la loi du bon Dieu. Et qu'ils ont une âme, et que le jour de leur mort, leur âme sera séparée de leur corps, et s'ils ne sont pas en état de grâce, malheureusement, ça sera l'enfer. C'est ça la vérité. C'est ça la charité. Imaginez un chirurgien qui ne dise pas la vérité à quelqu'un qui vient le voir, qui a besoin d'une opération très douloureuse, le plus rapidement possible pour ne pas mourir, un chirurgien qui ne dise rien par fausse charité. Je ne veux pas faire de peine à mon client, alors je ne dis rien. C'est un assassin. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Si nous n'avons pas justement ce feu sacré de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous aurons nous aussi bien des difficultés à sauver notre âme. Alors vous allez me dire, mais ça a coûté cher. Bien sûr que ça a coûté cher. Vous lisez l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dit notre Seigneur? Nous chasserons des synagogues. Et quiconque vous fera mourir, croient rendre hommage à Dieu. Vous voyez que c'est écrit pour aujourd'hui? C'est exactement ce qu'ils font. Rappelez-vous ce que disait saint Athanase à son troupeau. Ils ont les maisons de Dieu, ils ont les églises, on a la foi. Bon, nous, avec la grâce du Seigneur, on a une magnifique église ici, c'est vrai. Mais pensons justement, il faut nous renforcer justement, pas la confession fréquente, pas la communion fréquente, parce que le bon Dieu peut permettre un jour que nous aussi, nous passions par des persécutions terribles. Pas forcément des persécutions physiques. Beaucoup plus des persécutions psychologiques. Elles sont bien plus dangereuses. Parce que les persécutions physiques, ça fait quoi? Persécutions physiques, ça provoque le martyr. Des millions de personnes sont morts martyrs, donc sont au ciel, parce qu'il y a eu des persécutions physiques contre l'Église. Persécutions psychologiques, au contraire, sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles érodent petit à petit, elles diminuent la volonté, elles diminuent la force de la volonté pour finalement faire tomber dans l'apostasie. Donc si les persécutions physiques amènent au martyr, les persécutions psychologiques très souvent amènent à l'apostasie, si vous regardez autour de nous ce qui se passe. Alors demandons au bon Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin justement pour comprendre toutes ces choses-là. Et quelle est la vertu justement qui va nous aider à avoir cet esprit missionnaire? Eh bien, saint Pierre nous le dit dans l'épître d'aujourd'hui, c'est la charité. Ayez cette charité les uns pour les autres, nous dit-il, parce que la charité couvre une multitude de péchés. Première chose que le bon Dieu veut voir dans notre âme, c'est la vertu de charité. Cette vertu de charité qui attire les âmes vers le bon Dieu. La vertu de charité qu'utilisaient tous les saints justement pour attirer les âmes vers le bon Dieu qui était caché littéralement derrière leurs paroles. Est-ce que j'ai cette vertu de charité? Est-ce que dans ma façon de me comporter, encore une fois, ma façon de parler, ma façon de comportement en général, est-ce que en me voyant parler, en m'entendant parler, en me voyant agir, est-ce que les gens peuvent dire derrière il y a le bon Dieu? J'ai une face de bulldog à longueur de journée, difficile de voir le bon Dieu derrière votre face de bulldog. Alors demandons au bon Dieu, justement, cette grâce. Demandons cette grâce d'avoir ce qu'on appelle le feu sacré de la divine charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant un petit peu le feu sacré qui devait être dans le cœur de saint Paul, dans le cœur de saint Pierre, dans le cœur de tous ces apôtres qui sont partis à la conquête du monde, en sachant très bien ce qu'allait leur arriver. Ayant le feu sacré de tous ces millions de martyrs des premiers siècles qui ont justement accepté d'être coupés en morceaux, d'être dévorés par les lions, d'être brûlés vifs. Tout ça par amour pour le bon Dieu, parce qu'ils savaient qu'un jour ils pourraient retourner après leur martyre, ils auraient droit au paradis du ciel, au paradis du bon Dieu. Voilà ce que le bon Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Donc n'oublions jamais ces choses-là. Le bon Dieu m'attend au ciel. Il y a une porte pour entrer au ciel. Cette porte, c'est la vertu de charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est bien sûr d'abord l'amour de la vérité. Mais c'est l'amour de la vérité présenté de telle façon que les anges des gens aient envie de suivre cette vérité, même si elle coûte. En demandant, bien sûr, la protection de notre Sainte Vierge Marie, Notre-Dame, au ciel. Elle a cette vertu de charité extraordinaire. Elle est vraiment la reine de la charité parce qu'elle est la mère du bon Dieu. Mais en tant que reine du ciel, justement, notre Sainte Vierge Marie n'a qu'un désir. Quel est ce désir? C'est d'avoir tous ses enfants réunis autour d'elle. Et vous, ces belles images du Moyen-Âge qui reprendraient toujours la Sainte Vierge Marie ouvrant ses mains avec un large manteau autour d'elle et attirant, gardant sous son manteau tous ses enfants cachés sous le manteau de la très sainte Vierge Marie. Faisons la même chose, mes bien chers frères. Cachons-nous nous aussi sous le manteau de la très sainte Vierge Marie et transformons-nous nous-mêmes avant de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Commençons par voir la poutre qui est dans notre œil propre. Afin justement de changer ce qui doit être changé dans notre vie pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer, puisse faire venir notre Sainte Vierge Marie dans notre âme, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être là avec sa mère, et à ce moment-là, notre âme va en quelque sorte littéralement se transfigurer parce que notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère seront là. Voilà toutes les grâces que nous devons demander, que nous demanderons par l'intercession de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.